Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au menu du jour, l'Australie occidentale, l'un des États qui a adopté l'une des stratégies les plus drastiques pour empêcher le Covid-19 de circuler. Et cet État, il est dans les faits presque totalement coupé du reste de l'Australie depuis maintenant près de 2 ans. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'unité du pays? Cet État immense et prospère pourrait-il faire sécession et devenir indépendant comme il avait tenté de le faire au début du XXe siècle? On va en parler avec l'historien Romain Fati au cours d'une interview en 2 parties. Et puis, on retrouvera aussi Jean-Noël Ducasse pour faire le point sur l'actualité sportive alors qu'on s'approche de la fin de l'Open d'Australie. Mais avant cela, place à l'info, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 janvier 2022. Dans le Victoria, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité après le passage dans la matinée d'une tempête qui a frappé le centre de l'État. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui est célébrée aujourd'hui, une étude nous apprend que près d'un quart des Australiens ne savent rien, ou presque, à propos de la Shoah. Et aux États-Unis, le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci, souhaite que le coronavirus soit désormais traité comme une simple grippe. Le cabinet national qui rassemble le gouvernement fédéral ainsi que l'ensemble des dirigeants des États australiens doit se réunir à nouveau aujourd'hui pour faire un nouveau point sur la pandémie. Au menu du jour, l'avancée de la campagne de rappel vaccinal, la capacité des hôpitaux à gérer éventuellement l'afflux de malades ainsi que les perturbations engendrées par Omicron sur la chaîne logistique. Il sera également question de la vaccination pour les enfants allant à l'école primaire, ces enfants qui retournent à l'école la semaine prochaine. Actuellement, un peu plus d'un tiers des enfants âgés de 5 à 11 ans en Australie ont reçu au moins une dose de vaccin. Mais la travailliste Christina Kinnelly a fait part à nos confrères de ABC des doutes qu'elle avait quant à la capacité de cette réunion à faire des avancées significatives.
What my frustration and my fear for today's National Cabinet will be that it'll be just more of the same. Where the premiers come along, they tell Mr. Morrison what they're doing. He doesn't really try to get any type of national consensus. And again, the Australian people just pay the price for his failure to plan ahead.
En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités annoncent aujourd'hui le décès de 29 personnes ayant contracté le Covid-19. En revanche, le nombre de personnes hospitalisées recule légèrement et s'établit aujourd'hui à 2722. L'État a en outre précisé que près de 5 millions de tests antigéniques ont été distribués à 80% des écoles de Nouvelle-Galles du Sud, une mesure faisant partie d'un ensemble plus large de mesures mises en œuvre pour permettre le retour des enfants à l'école, d'après le dirigeant de l'État, Dominique Perrottet.
And I want to once again say to parents right across the state that we will ensure that we have a safe environment on day one. I know many parents are anxious, but it's incredibly important, as we've said numerous times, for our children's educational outcomes, mental health and social outcomes to be back in the classroom. And I'm very pleased with the work that has been done right across the state to ensure that we can have kids back in the classroom at day one, term one, in a safe way for teachers, children and parents.
Dans l'État du Victoria, on déplore aujourd'hui le décès de 15 personnes, mais comme en Nouvelle-Galles du Sud, le nombre de personnes hospitalisées amorce également un recul. On reste d'ailleurs dans le Victoria, puisque au moment où on se parle, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité après le passage de violentes tempêtes qui ont frappé le centre de l'État dans la matinée. Christopher Harvier, le directeur du bureau météorologique, conseille à la population de rester extrêmement prudente.
So currently, there is a severe thunderstorm warning for parts of central and eastern Victoria, which does include the outer eastern suburb of Melbourne, parts of South Gippsland, and also the northeast ranges. So there is still a severe thunderstorm warning current, which covers some parts of Melbourne. But currently those storms are easing in terms of their intensity. So it is looking like we'll see a period of more relatively benign thunderstorm activity through the middle part of today. However, we are expecting severe thunderstorms to redevelop later this afternoon.
Au niveau mondial, la vague Omicron a fait exploser tous les compteurs. L'Organisation mondiale de la santé indique que 21 millions d'infections ont été recensées au cours de la seule semaine dernière, un chiffre en augmentation de 5%. En revanche, l'OMS signale également que le nombre de décès reste stable. Il se situe légèrement au-delà de 50 000. Une annonce qui intervient alors qu'aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, le principal expert américain en matière de maladies infectieuses, a détaillé sa vision concernant le futur de la COVID-19, un virus qu'il souhaiterait désormais traiter comme une maladie respiratoire plus classique telle que la grippe. Un changement de braquet dans la gestion de cette épidémie qu'il souhaiterait voir amorcer le plus rapidement possible.
Where we want to be is that sufficient control, and control we mean not eradication like we did with smallpox, that's unreasonable, not necessarily elimination like we've done with polio and with measles by mass vaccination campaigns, but a level of control that does not disrupt us in society, does not dominate our lives, does not prevent us to do the things that we generally do under normal existence.
Entre Washington et Moscou, les échanges d'amabilité se poursuivent autour de la question ukrainienne. Les deux pays ont continué ces derniers jours à s'invectiver par déclarations interposées. Mais en Ukraine, loin de céder à la panique, la population relativise et temporise. À Kiev, on écoute la correspondance de Stéphane Sioran pour RFI.
La décision des États-Unis et de la Grande-Bretagne d'évacuer de Kiev leur personnel diplomatique non essentiel a été accueillie de manière très sceptique, aussi bien par un certain nombre de diplomates européens que par les autorités ukrainiennes qui ont jugé l'initiative prématurée. Selon Oleksiy Danilov, le patron du Conseil national de sécurité, il n'y a aucune raison de paniquer et de s'inquiéter concernant l'Ukraine. La situation est sous contrôle. Selon lui, l'armée ukrainienne n'attaquera personne et les mouvements russes sont connus de longue date. Même son de cloche du côté du ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a estimé que le nombre de soldats russes à la frontière n'était pas encore assez élevé pour envisager une attaque sur un territoire aussi vaste que l'Ukraine. Cela produit une ambiance un peu surréaliste à Kiev, alors que des expatriés anglo-saxons sont en train de plier bagages, alors que la situation sécuritaire est absolument calme, et cela entretient une véritable confusion auprès des Ukrainiens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Pendant ce temps, en Ukraine, on attend avec une certaine fébrilité les débuts du mois de février, alors que les Russes et les Biélorusses doivent tenir des exercices militaires conjoints et que des navires militaires russes s'approchent de l'est de la Méditerranée et donc de la mer Noire. Stéphane Sioran, Kiev, RFI.
Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'aide humanitaire a presque été entièrement suspendue sur place, les donateurs espérant ainsi pousser les nouveaux maîtres de Kaboul à respecter les droits de l'homme. Aucune concession n'a pour l'instant été faite en la matière, mais en attendant, le pays s'est enfoncé dans la crise et une large partie de la population est désormais confrontée à la famine, d'après les Nations Unies. Son secrétaire général, Antonio Guterres, appelle donc à permettre le retour des ONG sur place. Il estime que le sort du pays ne tient désormais plus qu'à un fil.
Six months after the takeover by the Taliban, Afghanistan is hanging by a thread. For Afghans, daily life has become a frozen hell.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'apprête à vivre les 48 heures les plus dangereuses de sa carrière, c'est ce que pensent la plupart des journaux britanniques, alors que le Premier ministre est visé par une enquête de police pour violation présumée des restrictions sanitaires. Au Parlement, lors de la séance des questions au gouvernement hier, mercredi, il a dû faire face à des critiques féroces de la part des parlementaires. À Londres, le récit de Emeline Vin pour RFI.
Le président de la Chambre des communes a dû rappeler les députés à l'ordre 4 fois. Quatre fois aussi, le chef de l'opposition Keir Starmer a réclamé la démission de Boris Johnson après l'ouverture d'une enquête de police au sujet des fêtes à Downing Street.
Nous assistons désormais au triste spectacle d'un Premier ministre visé par une enquête, incapable de diriger le pays et qui refuse de faire ce qu'il faut. Et tout ça alors que le prix de l'essence, des courses, de l'énergie monte en flèche. Vous ne comprenez vraiment pas le tort que votre comportement fait à ce pays.
Des appels relayés entre autres par le parti nationaliste écossais, esquivés à chaque fois par le Premier ministre bruyamment soutenu sur les bancs conservateurs.
Je ne peux pas commenter, mais ce qui se passe au gouvernement, c'est que le Royaume-Uni mène le front européen pour proposer un train de sanctions contre Vladimir Poutine, pour empêcher ce qui serait une catastrophique invasion.
Sans oublier de vanter sa gestion de la pandémie. L'air fatigué en arrivant, le chef du gouvernement a quitté la chambre revigoré. Emeline Van Londres, RFI.
En France, au procès des attentats du 13 novembre, un deuxième accusé a fait hier usage de son droit à garder le silence, Mohamed Bakali, soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats, a déjà été condamné à 25 ans de prison pour sa participation à l'attaque du Thalys, c'était en juillet 2015. Il devait être interrogé hier par la cour, mais il a tout simplement refusé de répondre. Compte rendu d'audience avec Marine de la Moissonnière pour RFI.
Je n'ai plus la force de me battre. D'une voix posée, Mohamed Bakali raconte avoir joué le jeu lors du procès du Thalys, s'être expliqué longuement et avoir écopé d'une peine à laquelle lui qui se dit innocent ne s'attendait pas. Ça m'a cassé, avoue-t-il. Ses conditions de détention, le procès en cours lui pèsent aussi. Surtout les 5 semaines de témoignages des parties civiles, ça m'a achevé. Aujourd'hui, Mohamed Bakali dit être fatigué et ne plus vouloir parler. De toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole est toujours suspecte. Elle n'a pas de valeur. L'homme ne répondra donc à aucune question. Silence sur ses convictions religieuses, sur ses liens avec les frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles, et sur les planques qu'il aurait louées. Maître Chemla, avocat de partie civile, tente sa chance. Si les victimes vous ont bouleversé, alors vous avez des comptes à leur rendre. Elles ont le droit d'entendre ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Mohamed Bakali reste mutique. La cour devra s'en tenir à ses déclarations pendant l'instruction. D'une même voix ferme comme en écho, son grand frère dit à la barre que lui aussi, vu ce qui s'est passé lors du procès du Thalys, a l'impression que son cadet est déjà condamné.
Retour en Australie où visiblement la population a une connaissance très limitée de l'histoire. D'après une étude qui vient de paraître, un quart des Australiens ne connaissent rien ou presque de l'Holocauste et plus de 70% d'entre eux ne savent rien des liens de l'Australie avec la Shoah. Cette étude est rendue publique, je vous le disais, aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Stephen Cook, qui a dirigé cette étude, estime que les résultats soulignent le besoin d'améliorer l'enseignement à l'école de cet événement tragique de l'histoire.
We need to acknowledge that the Holocaust is part of our story. This is the story of people in our street. This is the story of the decisions that our governments have made over time. So this is really important part of the Australian story.
On jette maintenant un coup d'œil à la météo du jour en Australie. 32 degrés et grand soleil à Perth, 31 à Adelaide, 34 à Melbourne où le temps aujourd'hui est très lourd. Ça pourrait même virer à l'orage plus tard dans la journée. Il y a des nuages au-dessus de Canberra où il fait 29 degrés, 28 à Sydney, 30 à Brisbane et 32 à Darwin qui va être aujourd'hui balayé par des averses.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord l'Open d'Australie. Cet après-midi, l'Australien de l'année, Dylan Alcott, 31 ans, affrontera le Néerlandais Sam Schroeder dans sa tentative de remporter un 8e titre de l'Open d'Australie en fauteuil roulant avant de se retirer du tennis professionnel. Il dit que même s'il fera de son mieux pour terminer en beauté, son objectif est simplement de profiter du match.
It's the last dance, baby. Win, lose or draw. And I could not, I mean, I want to win, but I will live if I don't win. I'm still the luckiest guy in the world if I don't win. But if you are in Melbourne, please come down.
Et ce match débutera vers 15h30 ce jeudi après-midi. Hier, la Française Alizé Cornet éliminée par l'Américaine Danielle Collins, 31e mondiale. Christophe Diremzian, Radio France Internationale.
Française a vu son beau parcours stoppé net par l'Américaine Danielle Collins, la 30e joueuse mondiale, a eu assez vite raison de la Niçoise, dominée 7-5, 6-1, et très déçue de sortir de cette manière.
J'ai l'impression de ne pas avoir été vraiment au rendez-vous. C'est frustrant parce que sur les matchs d'avant, ça n'a pas été le cas. Après, vraiment, elle m'a vraiment oppressée sur le court, quoi. C'est comme un rouleau compresseur. Elle est sur sa ligne, elle envoie que des sachets dans tous les sens. Elle m'a pilonné le coup droit et elle m'a mis sous pression tout de suite. Et c'est vrai que c'était pas idéal pour moi pour me mettre dans la bagarre. Et finalement, les échanges étaient très courts. Elle joue un peu toute seule, cette fille. Hein. Elle est très très puissante. Et donc moi, j'avais l'impression de subir et de pas vraiment être actrice de mon destin sur ce match. Ouais, j'aurais aimé être. Avoir un petit peu plus de quelque chose, quoi. Pas cette défaite finalement un peu sèche et sans saveur.
Collins jouera la Polonaise Świątek en demi-finale ce soir. La Polonaise qui a battu Kanepi, l'Estonienne, en trois manches. Ash Barty, l'Australienne, s'est imposée contre Jessica Pegula, l'Américaine, mardi. Et jouera contre Madison Keys, l'Américaine, en demi-finale ce soir.
9 sessions here at the Australian Open are really special, and to still have a bit of heat in the court's brilliant. I'm able to use that with my game as well, but I love playing here at night. I mean, I love playing at the Australian Open, doesn't matter what time.
Les demi-finales, messieurs, à venir, mais hier, en quart de finale, Medvedev, le russe, a gagné contre Félix Auger-Aliassime, le canadien. On écoute Medvedev sur RFI.
Après les deux premiers sets perdus, je n'avais plus aucune confiance. Il jouait incroyablement bien. Je ne l'avais jamais vu jouer comme ça. Et de mon côté, je ne pratiquais pas mon meilleur tennis. Donc à ce moment-là, je ne croyais plus en moi et en la victoire. J'essayais juste de me battre. Et pendant tout le match, quand j'étais en dessous, je me disais « Allez, montre-lui que tu es le meilleur ». Ça n'a pas toujours marché, mais cette fois-ci, ça l'a fait.
Et Medvedev jouera contre Tsitsipas, le grec, en demi-finale. Nadal, l'espagnol, est revenu de loin pour battre Shapovalov, le canadien, en cinq manches, en quart de finale.
I was completely destroyed after that. Yeah, very tough day, very warm. Honestly, I didn't practice for it. But I don't know. I was a little bit lucky at the beginning of the fifth. I think. At the beginning of the match, I was playing great. Then I know how difficult it is to play against a player like Dennis. No, he's very talented.
Italien Berrettini retrouvera Nadal en demi-finale. Puis à ne pas rater aussi la demi-finale des doubles messieurs entre les Australiens Kyrgios Kokkinakis et Granollers, l'Espagnol, et Zeballos, l'Argentin. Ce sera vers 14h30 cet après-midi. On passe au foot, la CAN, et une enquête aura lieu sur ce qui a causé la tragédie mortelle après la bousculade dans le stade Olembe au Cameroun. Pour rappel, 8 personnes ont été tuées et 38 autres ont été blessées à l'extérieur du stade à Yaoundé avant le match entre le Cameroun et les Comores lundi dernier. Le président de la Confédération africaine de foot, Patrick Motsepe, a déclaré que les autorités pensaient qu'une porte d'accès était fermée alors qu'elle aurait dû être restée ouverte. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de foot, a présenté ses condoléances aux familles des victimes après la tragédie d'Olembe. Hier, il y avait deux matchs de huitième de finale. La Côte d'Ivoire éliminée par l'Égypte au tir au but, 5-4. La Guinée équatoriale s'est imposé contre le Mali au tir au but également, 6-5, comme nous l'expliquent Olivier Pron et Sylvie Berruet pour RFI.
8 tirs au but de chaque côté. Il y avait 0-0 à l'issue du temps réglementaire, 0-0 après la prolongation. Il a fallu 8 tirs au but de chaque côté parce que chacune des deux équipes en a manqué un, tirant hors cadre. Et puis ensuite, il y a eu deux arrêts du côté du gardien, le héros Jesus Owono, le gardien équato-guinéen. Un seul arrêt pour Bosso Munkoro, le malien. Voilà la Guinée équatoriale pour la troisième fois de son histoire en quart de finale. En trois CAN, c'est plutôt pas mal. Quand on les a très vite. Quand ils se qualifient, ils vont minimum dans le top 8, dans le dernier 8. Ils seront dimanche face aux Sénégalais. À chaque fois qu'ils vont en quart de finale, qu'ils viennent à la CAN, eh ben c'est ou parce qu'ils l'organisent en 2012 et en 2015, ou alors parce qu'ils sont tout prêts, parce que Limbé, c'est à portée de ballon envoyé loin. C'est à 40 km ici, Mongomo, face à nous. Voilà les Équato-Guinéens. Dès qu'il y a l'air du pays, eh ben ils vont en quart de finale au détriment des Maliens.
Et c'est une énorme désillusion pour le Malien, bien sûr, Olivier.
Oh oui, il y avait un septième quart de finale en vue pour les hommes de Mohamed Magasouba, clairement. Et ils étaient favoris, ils étaient même devenus parmi les deux ou trois favoris hein, pour le titre. Ils étaient solides, ils sont solides, ils n'encaissent pas de but dans le jeu. Le problème pour les Maliens, et c'est qu'ils n'en marquent pas des buts. 4 inscrits en 4 matchs, 3 sur pénalty. Ce soir, ils auraient pu en obtenir un, mais l'arbitre en a décidé autrement. Et à l'arrivée, ils ont dominé pendant 85 minutes. 85 minutes de domination total, mais jamais vraiment de grand danger. 10 tirs en deuxième période, 0 cadré, et finalement, ce sont les Équato-Guinéens qui ont mieux fini. Énorme désillusion, donc, pour le Mali, pour Bamako, la lumière a dû s'éteindre, un petit peu comme elle s'était éteinte pour les Aigles à la fin de cette rencontre. Il n'y avait plus de jus, trop de stérilité, encore une fois, offensif pour espérer voir plus loin pour les Aigles maliens.
Mardi, il y avait deux matchs également, des huitièmes de finale avec le Sénégal qui a battu le Cap-Vert 2-0. Et le Maroc s'est imposé contre le Malawi 2-1. Samedi donc, en quart de finale, le Burkina Faso retrouvera la Tunisie, la Gambie jouera contre le Cameroun. Dimanche, le Sénégal jouera contre la Guinée équatoriale et l'Égypte contre le Maroc. En France, le foot avec la Ligue 1, il y avait un match hier et la victoire de Saint-Étienne contre Angers, 1-0. Handball, la France a battu le Danemark 30-29 hier et se qualifie pour les demi-finales. Un mot des JO d'hiver de 2022, c'est du 4 au 20 février en Chine et ce sont Tessa Worley et Kevin Roland nommés porte-drapeau de la délégation française. Raphaël Rennes, RFI.
Trois porte-drapeaux ont été désignés pour les Jeux Olympiques. Le choix s'est porté sur Tessa Worley, la double championne du monde de géant en ski alpin, et sur Kevin Roland, médaillé de bronze en ski halfpipe à Sochi en 2014. À 32 ans, il va vivre ses derniers Jeux, et c'est presque un miracle après un terrible accident de ski qui a failli lui coûter la vie en avril 2019. Alors, Kevin Roland savoure d'autant plus ce rôle conféré par ses pairs.
Heureux et reconnaissant, c'est assez incroyable. Il y a 2 ans et demi, j'aurais jamais cru déjà participer aux Jeux Olympiques, revenir sur le devant de la scène du ski freestyle. Mais là, j'y participe, et en plus de ça, je suis porte-drapeau, donc personnellement, déjà forcément, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis voilà, sportivement... Je suis super fier aussi de porter ce drapeau parce que j'ai envie de donner cette énergie positive, j'ai envie de communiquer avec les athlètes, de comprendre un peu comment tout le monde fonctionne pour ben après échanger aussi, beaucoup échanger, ça serait, je pense que ça peut être intéressant, il y a tellement de grands champions et en tout cas ben je vais être derrière eux pour qu'on aille chercher le plus de médailles possible.
Kevin Roland, et pour les Jeux Paralympiques, ce sera Benjamin Davier, triple médaillé d'or en paraski de fond et en parabiathlon à Pyeongchang en 2018.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Australie occidentale. C'est sans doute l'État australien qui a eu l'approche la plus précautionneuse par rapport au coronavirus. Et pour en parler avec nous, on a le plaisir d'avoir l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et je vous en prie. Alors, on parle aujourd'hui de l'Australie occidentale suite à l'annonce la semaine dernière de Mark McGowan, qui dirige cet État, de reporter la réouverture des frontières qui était prévue pour le 5 février, après déjà des mois et des mois d'isolement. Et ce report, en plus, pour l'instant, il est jusqu'à une date indéfinie. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça rouvrira. Et donc, C'est un paradoxe étonnant, mais actuellement, quand on se trouve à Sydney ou à Melbourne, c'est plus facile d'aller à Paris ou à Tokyo qu'à Perth. Et donc, c'est de ça que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, Monsieur Fati, parce que, au final, cette approche extrêmement précautionneuse et cette facilité, on va dire, à se replier sur soi-même de l'Australie occidentale, au final, au regard de l'histoire de cet État en particulier, c'est pas forcément une énorme surprise ?
Alors non, c'est pas une surprise. Alors c'est triste pour beaucoup d'habitants d'Australie occidentale, mais c'est pas une surprise dans le sens où si on remonte aux racines de la fédération australienne, c'est-à-dire que pour nos auditeurs, l'Australie, avant d'être un pays fédéré avec une capitale à Canberra, était une série de colonies britanniques, chacune ayant reçu un parlement progressivement au cours de son histoire. Ça a commencé avec le New South Wales, puis le Victoria, ça a continué. Et l'État d'Australie occidentale, dont la capitale est Perth, a toujours été très, très isolé du reste du pays. Et pour des raisons toutes simples qui sont à l'origine géographique.
Bien sûr.
C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement loin. L'accès se fait par bateau, et même entre Adélaïde et Perth par bateau à l'époque, ça prend quand même plusieurs semaines, puis il faut attendre le train. Donc il y a cette distance qui fait qu'effectivement ils sont sur le même continent. Il ne faut pas oublier que l'Australie, c'est de mémoire 12 ou 14 fois la France, donc c'est quand même très grand. Pour aujourd'hui seulement 26 millions d'habitants, à l'époque en 1901 on doit être autour de 4 millions d'habitants, donc c'est vraiment, ils se sentent loin, ils sentent qu'ils ont une histoire particulière qui est la leur. Et là où ça commence réellement, c'est quand la plupart des colonies australiennes connaissent une petite une récession dans les années 1890, alors qu'au même moment on découvre de l'or en Australie occidentale. Donc les personnes de l'Australie occidentale se disent « Oh là 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 là, les autres colonies veulent se fédérer. Oui, mais attention, c'est un climat économique difficile. Est-ce qu'on a un réel avantage à se fédérer ou pas ?» Et donc, dès avant la fédération, qui est officialisée le 1er janvier 1901, les habitants d'Australie occidentale, ils vont déjà à reculons. Et ça ne fera qu'empirer dans les années 20 et les années 30, puisque un référendum de sécession est organisé en Australie occidentale en 1933. Et ce référendum est soutenu par deux tiers des habitants de l'Australie occidentale. Donc il y a un réel soutien de se dire, ben voilà, on a une histoire différente, on a une localisation qui est éloignée, et puis on a une économie qui est florissante. Et là, pas de secret, encore une fois, ça se passe en 1933. Pourquoi ? Parce qu'on est après la grande crise de 1929, dont les répercussions durent des années. Donc dès qu'il y a un enjeu économique, les habitants de l'Australie occidentale se posent la question de savoir, ah, est-ce que la fédération est notre habitat naturel. Et ça se repose encore dans les années 50 et 60, alors qu'il y a une interdiction d'exporter du minerai de fer aux pays étrangers, qui est progressivement levée par Canberra dans les années 60 et 70. Mais dès qu'il y a une opposition économique, ils brandissent la menace de « Attention, on est votre premier producteur de minerai de fer ». Nous pourrions prendre notre indépendance. Or, c'est une arlésienne en réalité.
Alors, je veux préciser par rapport à cette question du minerai de fer qui est évidemment central pour un État comme l'Australie occidentale et notamment sur la mise en place de cette interdiction d'exporter. Sur la côte Est, ça ne pose pas vraiment problème parce que ces États-là sont déjà pas mal industrialisés alors que l'Australie occidentale reste un État vraiment tourné vers l'exploitation des matières premières sans véritable industrie, c'est ça, hein ?
Complètement. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, cette interdiction, je crois qu'elle est opérée en 1938, mais cette interdiction est opérée par rapport au Japon. À l'origine, l'Australie a une peur, c'est de fournir du minerai de fer au Japon qui est en train de s'armer. On est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, le climat change dans le Pacifique. Alors certes, on peut pas prédire l'avenir en 38, mais on voit déjà que c'est compliqué en Europe avec Munich, que le Japon est à la recherche de tout minerai de fer qu'il peut acheter pour construire des porte-avions, des avions, des chars. Et donc l'Australie se dit, on va pas fournir à nos potentiels ennemis de quoi s'armer. Or, ça ne pose pas de soucis, c'est même totalement... ça a une légitimité complète dans les États de l'Est qui veulent se protéger du Japon. Or, pour l'Ouest du pays, ça pose un gros souci, parce que ça veut dire que les exportations peuvent se faire qu'au sein de l'Empire britannique, qui est un gros marché hein, à l'époque. Mais ça coupe quand même beaucoup d'autres marchés potentiels. Donc il y a cette resentment, j'ai oublié le mot, vous m'excuserez en français.
Ressentiment,
je vous remercie, des Australiens de l'Ouest par rapport au reste du Commonwealth, qui vient leur taper les doigts avec une règle en disant non, pas d'exportation de minerais de fer. Or, c'est la principale ressource. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est un État qui ne cherche pas à devenir plus intelligent, si vous voulez. Ils sont très contents d'aller creuser la terre et d'y trouver du minerai de fer, de l'or, de la terre rare, ou alors de l'exploiter de façon, cette fois-ci, agricole. Donc, le minerai et l'agriculture sont vraiment la base de l'économie du Western Australia, et c'est un problème parce que, finalement, quand on ne diversifie pas son économie, on est très, très dépendant des cours des marchés internationaux, puisque l'Australie ne fixe pas les prix sur les marchés, les prix sont fixés à l'étranger. Et donc, il y a une grande dépendance de l'État et de son économie d'Australie occidentale vis-à-vis des marchés internationaux. Donc, quand ça va, boom incroyable. Je parle des années 2000, par exemple, sous le gouvernement de John Howard, où l'Australie occidentale est devenue très, très riche très rapidement, poussée par la demande chinoise. Et aujourd'hui, son économie est préservée parce qu'il y a une forte demande pour sortir du Covid et de la pandémie par l'industrie chinoise. Et donc, dès que l'Australie occidentale se porte bien, se pose la question de savoir, ah mais attendez, on contribue plus vers la fédération que ce qu'on reçoit de la fédération. Donc, pourquoi ne pas devenir indépendant? Or, c'est un fantasme dans la mesure où c'est un territoire gigantesque, il n'y a que 2,6 millions de personnes. On imagine mal, au milieu de l'Indo-Pacifique, de voir une nouvelle nation émerger qui ne pourrait pas protéger ses frontières. L'Australie a déjà du mal à protéger sa fédération. On voit mal comment un tout petit État comme celui-ci pourrait avoir sa propre armée, son propre système diplomatique avec des ambassades partout dans le monde. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas se l'offrir, aussi riches qu'ils soient. Et puis, je ne suis pas certain que les habitants d'Australie occidentale eux-mêmes soient en faveur d'un tel projet. Ils l'ont été par le passé, comme je l'ai dit, en 1933, deux tiers des habitants d'Australie occidentale soutenaient cette proposition. Mais en 2020, je crois qu'il y avait eu un sondage organisé en Western Australia. La grande majorité souhaitait rester dans la fédération. Donc c'est plutôt un drapeau qui est brandi de temps à autre par certains milieux industriels pour défendre une Australie occidentale autonome. Mais dans la réalité, on voit mal comment ça pourrait se passer. De toute façon, constitutionnellement, ce serait très difficile. Si vous me permettez ce détail un peu technique, en 1933, quand il y avait eu cette proposition de sécession, les représentants d'Australie occidentale avaient amené ce résultat et cette pétition à Londres. Et Londres a dit, mais écoutez, l'Australie est un demi-union indépendant, c'est à Canberra de décider. Et la constitution telle qu'elle est, aujourd'hui dans son préambule, stipule que l'Australie est indissoluble. Elle contient des articles qui proposent que d'autres espaces puissent rejoindre la fédération. En revanche, il n'y a pas de disposition pour la quitter. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, il faudrait probablement organiser un référendum, et tout référendum en Australie ne peut être victorieux que si la majorité des votants dans la majorité des États se prononcent pour. On imagine très mal que des personnes du Queensland ou de Nouvelle-Galles du Sud ou du Victoria votent pour exclure ou ne pas retenir l'Australie occidentale.
D'accord. L'aspect suivant sur lequel je voulais revenir, vous le disiez, les éléments qui font que l'Australie occidentale est un État un peu à part, c'est d'abord la géographie, l'éloignement. Vous disiez aussi que ces velléités de sécession au cours de l'histoire, elles ont toujours été liées au sentiment de donner plus que l'État ne recevait de la part de la Fédération. Là, depuis le début de la pandémie, ce qui a permis à l'Australie d'éviter de sombrer dans la récession, c'est le boom du minerai de fer. Et donc, on peut dire que ce qui a sauvé l'économie australienne, c'est quand même en grande partie les mines d'Australie occidentale. Est-ce que ce sentiment de donner plus qu'on ne reçoit, il est toujours présent aujourd'hui?
Oui, il est présent, mais encore une fois...
C'est un État très prospère, je le précise. Il me semble que c'est l'État où les revenus sont les plus élevés de tout le pays. et d'assez loin en plus. Et avec quasiment zéro chômage, même au contraire, un problème de pénurie de main-d'œuvre encore plus important que dans les autres États actuellement.
Totalement, totalement. Vous avez totalement raison là-dessus. Le budget du gouvernement d'Australie occidentale est en excédent. Année après année après année. Quel gouvernement peut se targuer d'accumuler des excédents? Et pourquoi ils accumulent autant d'argent? On parle d'à peu près 5 milliards par an. C'est vis-à-vis des royalties qui sont perçues et payées par les exploitations minières. Mais effectivement, on pourrait se dire, oui, mais on donne plus à l'État fédéral que l'État fédéral nous donne. Certes, mais la réalité n'est pas que financière. La construction de routes, l'ouverture d'hôpitaux et d'infrastructures, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de formation, c'est une question d'éducation, c'est une question d'équipement et de main-d'œuvre qualifiée. Et alors là, dans ces cas-là, la balance est inversée. L'Australie occidentale ne pourrait pas vivre sans le reste de l'intelligence et du développement qu'elle touche du reste du pays. Aujourd'hui, la politique de M. McGowan fait que, vous l'avez rappelé, il y a une pénurie de main-d'œuvre en Western Australia, ce qui paralyse certains secteurs de l'économie. Tous les habitants d'Australie occidentale ne travaillent pas dans les mines ou dans les fermes. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez un gouvernement d'un pays très développé qui est l'Australie, qui est absolument pas équipé pour ouvrir ses frontières. C'est pas qu'une idée de « on est fermé, on est mieux », c'est aussi qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas assez de lits d'hôpitaux, ils n'ont pas assez d'infirmières. Cette politique de refermement sur soi a fonctionné pour maintenir le virus en dehors de ses frontières. Mais au lieu de travailler pendant 2 ans à se préparer, à part des discours, ils n'ont pas fait grand-chose. Et ça, c'est une réalité qui va être très dommageable au gouvernement de McGowan, qui a été plébiscité pendant la pandémie justement à cause de ces fermetures. Mais maintenant, les Australiens, les habitants d'Australie occidentale se rendent compte qu'ils ne sont absolument pas préparés.
On est à peu près à 2 ans de pandémie et à peu près 2 ans aussi que l'Australie occidentale est fermée au reste du monde et à quelques semaines et mois près, fermé aussi au reste de l'Australie. Le fait d'être physiquement séparé du reste du pays, est-ce que ça peut contribuer à décoordonner l'Australie?
Je ne pense pas, parce que il y a des permis qui sont octroyés aux travailleurs essentiels pour pouvoir aller travailler d'un état à un autre et passer cette frontière qui est effectivement une sorte de rideau de fer. Sur le long terme, il faut bien voir que la population d'Australie occidentale, vous avez énormément de personnes qui vivent en Australie occidentale qui ont de la famille dans les autres États d'Australie et qui ont de la famille à l'étranger. Je pense que les conséquences sur le long terme, il est un peu trop tôt pour en juger, mais à court et à moyen terme, ce qu'on observe, c'est que effectivement, à être reclus sur eux-mêmes, ils sont en train de saboter un peu leur économie, disons les secteurs qui sont autres que minier et agriculture, et c'est-à-dire par exemple l'éducation et le tourisme. Mais il ne faut pas oublier que pour les Australiens, l'idée d'être fermé à un certain appel auprès de catégories de la population différentes. Les Australiens occidentaux qui aujourd'hui disent « oh là là, je ne peux plus voyager », on va leur rétorquer « mais c'est un problème de classe supérieure ». Donc, il y a une petite guerre des classes entre les classes populaires qui sont très heureuses de voir que c'est fermé pour les protéger et les classes supérieures, entre guillemets. On voit très bien en ce moment que nombreux sont les lobbies économiques qui se plaignent au gouvernement McGowan, que ce soit le PDG de Flight Centre, que ce soit des compagnies minières. Ils ne supportent plus ces restrictions. Et ce qu'on voit dans des pays qui adoptent ces politiques très strictes, c'est que les gens partent. On le voit très bien à Hong Kong. Il faut rappeler que pendant la pandémie, l'Australie, c'est la première fois depuis 1916 qu'elle a perdu de la population. C'est catastrophique, c'est un sujet qui n'est pas débattu, mais pendant la pandémie, vous avez 150 000 Australiens qui sont nés en Australie, qui ont quitté le pays, parce qu'ils veulent pouvoir vivre, parce que l'Australie est coupée du monde, parce que l'Australie est très en retard dans sa gestion de la crise. Canberra annonce que c'est un succès, qu'on a sauvé des vies, peut-être, mais c'est un coût économique et démographique majeur. Chaque année, l'Australie accueille entre 190 000 et 200 000 migrants qualifiés. Il n'y en a pas eu en 2020, Il n'en a pas eu en 2021. On va commencer à rouvrir en 2022. Mais en attendant, vous avez un déficit de population de progression de 400 000 et une perte sèche de 150 000. Ça a un réel impact économique.
Une dernière question, je reviens sur ce qui est l'origine de notre conversation, la fermeture des frontières de l'État. Vous évoquiez tout à l'heure patron de Flight Center qui envisage d'attaquer le gouvernement d'Australie-Occidentale pour cette mesure en disant qu'elle est anticonstitutionnelle. Alors, c'est évidemment pas le seul État qui l'a fait, hein. Le Queensland, jusqu'à tout récemment, était également fermé à la Nouvelle-Galles du Sud et au Victoria. Dans une moindre mesure, la Tasmanie aussi a été très protectionniste. Et pourtant, c'est d'ailleurs l'argument développé par le patron de Flight Center, la liberté de mouvement est garantie par la Constitution. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ces mesures de repli sur soi, de fermeture des frontières entre États au sein d'un même pays, il me semble déjà premièrement complètement inédit dans un pays démocratique. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que le patron de Flight Center, il a des raisons d'espérer que son recours remporte du succès? Parce que de fait, la liberté de circulation, on peut comprendre qu'elle s'entend à l'échelle d'un pays et pas seulement d'une entité administrative.
Alors, c'est une question fondamentale et c'est très compliqué. L'Australie, contrairement à l'Angleterre et le Canada, n'a pas de Bill of Rights. L'Australie a une constitution qui est un document organisationnel, froid, législatif et administratif. La constitution ne se préoccupe pas de détailler tous les droits des Australiens par le menu.
Juste, quand vous dites Bill of Rights, en gros, c'est un genre de déclaration des droits de l'homme, hein, c'est ça?
Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, la déclaration des droits de l'homme est intégrée au préambule de la Constitution, et donc c'est quasiment un droit opposable. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, vous pouvez dire, vous êtes en train de me raccourcir ce droit, ce n'est pas légal, je vous attaque. En Australie, c'est très compliqué de faire ça, et c'est pour ça que personne ne l'a réellement fait, ou du moins sans succès, on peut penser à Clive Palmer, parce que la notion de liberté, un, est soumise à l'interprétation, c'est-à-dire que personne n'oblige les habitants d'Australie occidentale à rester dans leur maison ou dans leur rue, ils ont le droit de circuler au sein de leur État. Donc, quelle est la frontière de la liberté? Est-ce que c'est votre ville? Est-ce que c'est votre État? Est-ce que c'est votre fédération? Est-ce que c'est le monde? Qui plus est, deuxième complication, dans le droit australien, les lois de biosécurité priment la notion de liberté. En cas de pandémie, justement, les gouvernements, à la fois locaux et le gouvernement fédéral, ont des droits qui n'existent pas dans les autres pays démocratiques. Ce serait absolument inimaginable. Mais les Australiens, contrairement à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, obéissent totalement à la loi. Donc, ce que le PDG de Flight Center propose, c'est de challenger le gouvernement de McGowan en disant « Vous n'avez pas le droit de priver vos habitants de votre État de la liberté de voyager dans d'autres États. » Je lui souhaite bonne chance. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, personne ne pourrait prévoir que ce case serait couronné de succès. En réalité, une des seules et probables voies pour garantir cette liberté de mouvement, ce serait plutôt vis-à-vis des traités internationaux que l'Australie a signés. Mais c'est très compliqué, ça prendra des mois et des années. Et de toute façon, en l'état actuel des choses, il y a encore un soutien populaire d'une majorité de la population de Western Australia pour que les frontières soient fermées. Donc on va voir ce que ça donnera. Je ne suis pas certain que sa tentative soit couronnée de succès.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Romain Fati. Je le rappelle parce que j'ai oublié de le dire au début de notre entretien. Vous êtes historien à l'université Flinders d'Adélaïde. Merci encore pour vos explications.
Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tu es parti et tu ne reviendras pas. Je déteste la vie comme ça.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec La Mélancolie sur la Riviera. C'est un morceau interprété par la Grande Sophie et Émilie Marsh. Nous, notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h précise. Je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter toutes nos émissions, nos interviews et nos reportages en podcast. Pour cela, rien de plus simple, abonnez-vous à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Je voulais également remercier Harvey pour m'avoir assisté techniquement pour cette émission et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Je vous dis à très bientôt.
À quoi bon le sud si il fait froid ? Je suis bien à l'ouest sans toi. C'est fini, on danse plus la samba. Le long de la rivière.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.